Ben bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est chez moi et puis ma petite sœur Carmen et mon beau papa est avec moi et puis on a pris ce temps, on a pris un temps de louange ensemble, on a eu du bon temps. Et puis on salue les gens qui sont pas là, Marilyn, Hélène, bonjour, on vous aime beaucoup et on a hâte que vous soyez de nouveau avec nous. Et puis si vous voulez, on va prier. Merci Seigneur du privilège qu'on a de pouvoir être ensemble ce matin et puis d'étudier ta parole et puis Seigneur ce matin. On réclame ta présence, comme tu l'as dit, là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai parmi eux. Et puis, on n'est pas beaucoup en nombre, Seigneur, mais tu sais que nos cœurs sont là. Et puis, nos cœurs aspirent à toi. Et puis, on veut être enseigné aujourd'hui. On veut être fortifié dans ta parole, Seigneur, pour que le nom de ton Fils, Jésus, soit glorifié par nos vies, Seigneur. Amen. Et puis, on avait commencé à voir, c'est pas surprenant qu'il manque du monde ce matin. Hein? Parce qu'on a commencé à étudier l'opposition. Hein? Donc, l'opposition, c'est quelque chose qui, dans le dernier partage, on avait vu la première partie de l'opposition, on a vu le chapitre 4, et puis on avait vu qu'il y avait des ambiguïtés, si vous vous souvenez, hein, il y a des ambiguïtés au niveau des rois. C'est pas grave, on focus pas sur l'ambiguïté, c'est juste le fun d'avoir relevé ça, puis d'avoir constaté ça, et puis d'avoir étudié ça. Et puis, mais ce qui était important, c'était de voir quelle sorte d'opposition qui a été utilisée. Donc, on voit que pour faire un rappel assez rapidement sur la dernière, excusez, on avait fait une comparaison. Il y a un des auteurs que j'étudie, que j'étudie pour mes partages, pour faire mes partages, qui avait fait une comparaison sur la guerre des étoiles, c'est l'Empire contre-attaque, que ça s'appelait. Et puis je trouvais ça intéressant parce que ça disait, en gros, il disait que toute cette série-là était basée sur un conflit. Hein? Et puis c'est ça qui était le truc, c'est le conflit. Hein? Et puis, s'il y a un conflit, il y a plein de monde qui va perdre son temps autour du conflit. Il y a plein de monde qui va être blessé dans le conflit. Puis, on est sûr que l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Parce qu'il y a un conflit. Donc, ce que ça a fait à ressortir, c'était que les gens, l'ennemi, ce qu'il veut créer, c'est un conflit. Il veut créer un conflit. Donc, on doit, nous, pas embarquer dans le conflit. Hein? Et puis, on avait vu que la première démarche que les gens se sont présentés comme des amis. Je dis, on va venir bâtir avec vous. Mais dans le premier verset, ça disait que c'était les ennemis de Juda et de Benjamin. Puis, donc, les dirigeants, ils ont eu du discernement. Ils ont dit, premièrement, ils ont obéi à ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel avait parlé par la bouche du roi Cyrus. En passant, excusez-moi, la dernière fois, je l'appelais Cyrus parce que j'étais tout mêlé d'Arius, Cyrus. Mais c'était Cyrus, son nom. Et puis au dernier partage, et en passant, on salue toutes les gens qui sont sur Internet, soyez bénis, Michel, que maintenant sa photo est sur notre site web, et puis si vous voulez voir Michel, si vous voulez voir la bête, allez voir dans la section témoignages, vous allez voir à de quoi a l'air Michel. Et puis on avait vu que les gens s'étaient présentés comme des amis parce qu'ils voulaient infiltrer, donc l'ennemi a essayé d'infiltrer le groupe, en apportant son amitié, parce qu'après il voulait le diviser. Donc, et c'était la première tentative, mais les gens ont eu du discernement, les dirigeants ont eu du discernement. Et puis, ils ont refusé l'association parce que ils ont gardé en tête ce que le Seigneur avait donné comme directive. Il a dit, vous allez rebâtir. Il n'a pas dit, vous puis les peuples autour. Il a dit, vous allez rebâtir. Donc, c'était à vous. Donc, ils avaient focusé là-dessus. La deuxième stratégie qu'ils ont utilisée, puis celle-là, malheureusement, elle a fonctionné, c'est qu'ils ont été avec le découragement. Donc, les gens sont venus les harceler, et puis ils ont payé des fonctionnaires perses pour aller les harceler, les gens du gouvernement perse. Donc, à tous les jours, ils subissaient du harcèlement. Mais on a vu que la construction du temple avait été interrompue pendant 16 ans. Vous vous souvenez de ça? Quand on a regardé ça, je veux pas perdre mon écouteur, puis je veux être assez fort, là, oui, c'est bon. Et puis, on se disait, moi, je me disais, mais pourquoi ça l'a arrêté 16 ans? C'était l'œuvre de Dieu, ça. Et puis, je m'expliquais mal pourquoi ça avait arrêté 16 ans. Et puis, on avait eu la réponse dans Agé. Et puis, ce que ça dit, c'est que l'Éternel, il donne une sentence, c'est un châtiment. Parce que les gens, là, suite, quand ils ont eu de l'opposition, ils ont arrêté de bâtir, ils sont allés bâtir leur maison. Donc, puis là, plus que ça prenait du temps, là, plus que c'était facile, tu sais, de dire, oh ben là, c'est pas le temps. Tu sais ce qu'il disait? Ah, si c'est pas le temps, c'est pas béni parce que Dieu, il permettrait pas ça. sais, fait que c'est pas béni. Fait qu'ils sont venus, ils sont allés rebâtir leur maison, parce que les autres, ils venaient d'arriver, là. Ils venaient d'en revenir, là, lui. Fait qu'il fallait qu'ils aillent, qu'on reste à quelque part. Fait qu'au lieu de bâtir la maison du Seigneur, ils sont retournés bâtir leur maison. Et puis là, le Seigneur, c'est pour ça qu'il a permis l'arrêt des travaux pendant 16 ans. Et puis les gens qui étaient, on voit qu'il y avait deux sortes de gens. Il y avait les gens qui criaient puis ils chantaient parce que les fondations de l'Éternel avaient été posées. Puis il y avait ceux qui pleuraient à haute voix. Et puis les gens qui pleuraient à haute voix, c'est ceux là qui étaient que Dieu a réprimandé. Parce qu'ils sont venus pleurer parce que leur attachement, leur relation avec Dieu passait par la gloire du temple. Ils ne passaient pas directement, il n'y avait pas une relation personnelle. Donc, eux autres, ils pleuraient parce que le temple, là, il n'était plus dans sa gloire. Donc, puis c'est ceux-là qui ont été rebâtir les maisons. Donc, le Seigneur a permis ça, c'était un châtiment. Et puis, si vous voulez voir exactement ce que le Seigneur avait à leur dire, c'était dans Agée. C'est dans le prophète Agée. C'est tout le chapitre 1, je ne sais pas si tu l'avais lu, papa, là, je l'avais sorti. Et puis, vraiment, le Seigneur a mis sa main. Il a dit, vous allez semer, vous récolterez pas, vous allez manger, vous allez avoir encore faim. Vous allez être vêtus, vous allez avoir froid. Tant que vous ne reviendrez pas. Et puis, ils avaient vraiment châtié. Donc, on voit que dans Esdras et Néhémie, c'était pas mentionné, ça. Hein? C'est en étudiant, ça, qu'on a découvert. Oh, attention, là. Et ça allait arrêter pendant 16 ans, mais Dieu a permis que ça arrête pendant 16 ans. Et puis, si Dieu a permis que ça arrête pendant 16 ans, c'est parce qu'il y avait une raison. C'est parce que les gens avaient d'autres priorités que la maison de l'Éternel. Amen? Et puis, aujourd'hui, on va faire un raisonnement sur tout ça, une réflexion sur tout le chapitre. Donc, on va voir les sortes d'opposition. Ça va te donner à pas faire. Ça, c'est les feuilles que tu peux tourner, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est Aline. Ça, c'est pas aujourd'hui. Fait que tu peux les tourner, ceux-là, c'est pas aujourd'hui. Ça, non. Ça, c'était comme ça. Puis ça, c'est Aline, comme ça. Ça, c'était Carmen. Ça, c'était JP. Excusez, là, à la maison, ceux qui nous écoutent, on est en train de se passer nos feuilles. On fait ça à la bonne franquette. Et puis, aujourd'hui, ça s'appelle l'opposition à la restauration 2. Et puis, JP, je t'ai rajouté la date en dessous, parce que je sais que t'aimes ça, fait que je t'ai écrit à ce temps la date. Je t'ai mis des numéros de page. Hein? Là, je te l'ai rajouté. Puis aujourd'hui, ça termine le partage sur l'opposition à la restauration. On va faire une réflexion sur le chapitre 4. On va réfléchir à ça ensemble. Tu voulais-tu te prendre un café, toi? Non? Oui? Tu peux, hein, si tu veux. Vas-y. Non, c'est correct, j'en ai un, hein? Merci. Et puis ça s'appelait on va commencer notre partage avec le mot anticiper l'opposition. Pour des gens qui travaillent dans le royaume de Dieu, faire face à l'opposition, c'est une chose normale. Comme le peuple de Juda, notre travail ne sera pas sans souci et sans frustration. En fait, le chapitre 4 d'Esdras illustre quelques-unes des formes d'opposition que nous allons rencontrer. La première tentative des adversaires de Juda a été d'infiltrer les rangs du peuple de Dieu. À première vue, il semblait offrir un geste amical de soutien. Mais derrière cette démarche, il y avait une tentative de compromettre l'intégrité de l'œuvre de Dieu. C'est important ici. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il cherche l'ennemi à faire? Il cherche à compromettre l'intégrité de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'ennemi, il cherche à faire désobéir les gens, sans qu'ils s'en rendent compte. Le Seigneur avait statué sur qui devait bâtir la maison. Donc, ils sont allés bien sournoisement offrir leur aide tout en gentillesse, mais dans le fond, ils voulaient amener ces gens-là à désobéir. Vous comprenez? Voyez-vous où ce qu'était la trappe? C'est qu'ils voulaient amener les gens à désobéir à ce que Dieu avait demandé. Donc, c'est ça, le but de l'ennemi, c'est ça. C'est c'est d'atteindre l'intégrité de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu a parlé, bon, il va tout faire pour essayer. Si Dieu nous a donné une direction à nous, ben, l'ennemi va tout faire pour essayer de nous faire dévier de cette direction-là. Comprenez-vous? Donc, il voulait amener les gens à désobéir à ce que Dieu leur avait indiqué de faire. En tant que chrétiens qui marchent dans l'œuvre de Dieu, nous allons aussi recevoir des offres d'aide par des gens à qui, à première vue, ont l'air bien intentionnés. Cela peut même se produire à leur insu. L'ennemi peut même s'en servir de ces gens-là, puis ils savent même pas. Parce que c'est lui qui manipule. Une manipulation de l'ennemi couverte par une supposée fraternité. Parfois, ces orques viennent de gens religieux qui prétendent être des chrétiens depuis longtemps, mais le plus souvent, l'aide qui menace notre intégrité prend une forme différente. Ils viennent offrir de l'aide pour supposément nous aider dans notre culte ou pour nous offrir de la communion fraternelle, n'importe quoi, pour nous amener dans la désobéissance par rapport à la direction que Dieu a donnée. Comprenez? Dieu a donné une direction. Dieu a parlé. Et puis, toutes les manipulations vont être bien sournoises, mais ça va être pour nous amener à côté ce que Dieu nous a demandé de faire. L'ennemi va utiliser des gens en les manipulant dans leurs émotions pour leur faire brandir le drapeau de leur justice propre, qui en fait est un vêtement souillé devant Dieu. Les chrétiens qui n'ont pas de verticale solide avec le Seigneur seront certains du bien fondé de leur démarche, parce qu'ils sont basés sur leur barème à eux. Au lieu d'être branchés au Seigneur sur ce que le Seigneur veut, sont basés sur leur justice propre. Comprenez? Donc, ils sont convaincus qu'ils sont corrects ou ils s'en rendent carrément pas compte. Ils sont utilisés par l'ennemi, mais ils s'en rendent pas compte. Dans l'exemple que nous étudions, il s'agit de ceux qui sont venus pleurer pendant la célébration. Il y avait une célébration qui était supposée être une fête pour le Seigneur. Merci Seigneur, on a mis les fondements de la maison. On a vu, il y en a qui sont venus pleurer à haute voix pendant la célébration. Donc, pour ces gens-là, leur relation a passé par la gloire du temple au lieu de passer directement. Leur relation passait par un bâtiment au lieu d'avoir une relation directe. C'est pour ça qu'ils sont venus pleurer. Et puis, vous irez voir dans Agé, vraiment, le Seigneur, on dit ça, c'est fondé ce qu'on dit sur ce que dit le prophète Agé, sur ce que dit le Seigneur par son prophète Agé. Et puis, quand ça arrive, ça, là, on a parlé souvent, mais quand on voit que, quand on est confronté à ça, l'apôtre Paul, il nous a donné une façon de vérifier. Il nous a donné une façon de vérifier dans le sens, il y a un moyen simple de vérifier. Est-ce que c'est utile dans le royaume de Dieu? Souvenez-vous. Ensuite, est-ce que ça édifie le corps de Christ? Troisièmement, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quatrièmement, pour quel royaume je travaille? Pour qui je travaille quand je suis en train de faire ça? Donc, si on prend ces barèmes-là que Paul nous a donnés, puis si on met ça, si on fait passer tout à travers ça, là, veux-tu que je vais vous dire quelque chose? Il n'y a rien qui va passer à travers de ça. Parce qu'on va, on va avoir du discernement. Un autre exemple. Les chrétiens qui cherchent une guérison, soit de l'âme, soit physique, ils vont expérimenter les techniques du New Age, ou non, le Nouvel Âge, hein? On a entendu parler de ça. Ou ils vont aller consulter des supposés docteurs de l'âme. Puis ces docteurs-là, ce qui fait en sorte que la souveraineté de Dieu sur le processus de guérison n'est plus suffisante. Voyez-vous? Voyez-vous comment ces gens-là, ils amènent à désobéir à Dieu? Dieu a dit, par la foi, vous serez guéris. Par mes meurtrissures, vous serez guéris. Mais là, les gens, hey, viens, je vais t'amener voir un guérisseur, il est fantastique. Tu sais? Mais c'est un piège incroyable. Plutôt que demander par la foi à Dieu de les guérir, ces gens bien intentionnés, sont bien intentionnés, là, se laissent prendre par des stratégies de manipulation démoniaque et consultent, en fait, des démons. Et vous pensez le dommage? Ils sont allés consulter des démons. En faisant ça, là, très bien ce qu'ils font. Ils donnent leur approbation parce que leur consultation est volontaire. Elle a été choisie avec leur libre arbitre. Ce qui donne libre accès à l'ennemi sur leur âme. Et vous pensez? Tabarouette, vous pensez dommage, comment c'est grave? C'est incroyable. Dans ces situations, l'intégrité de la foi et le ministère est compromis par le biais d'un partenariat avec le faux ami. Celui qui dit qu'il va te guérir, là, c'est pas un ennemi. Est-ce que le Seigneur peut être assis à la table de démons? Selon vous. Il peut pas, hein? Quand on leur demande au nom de qui ils sont capables d'apporter la guérison, hein, on a eu toutes les sortes de, l'énergie universelle, l'énergie divine. Des fois, ils vont dire l'énergie divine. Des fois, ils vont dire les guides spirituels, les guérisseurs. Mais c'est bien rare qu'ils vont dire que c'est par Jésus-Christ qu'on est guéri, par les meurtrissures de Jésus-Christ qu'on est guéri. S'il y en a un qui vous dit c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu vas être guéri, là, je vous dis OK. Mais s'il dit d'autres choses que ça, je vous dis, hey, ne touchez pas à ça, ne laissez pas ces gens, donnez pas l'accès à vos âmes à ces gens. De grâce. Donc, il y a un autre adversaire qui a envahi le christianisme moderne. Dans les dernières années, la croissance de l'Église a fait des milliers d'œuvres, de nouvelles œuvres. Il y a des œuvres qui poussent partout, hein. Mais au milieu de tout cela, certains dirigeants chrétiens sont tombés dans le plus grand piège, celui de la convoitise de la croissance. Nous autres, on fait des chrétiens. Hein? On en fait des chrétiens, nous. Et puis, plusieurs d'entre eux ont constaté les dégâts, les ravages d'une... Plusieurs d'entre nous ont constaté les dégâts, les ravages d'une telle démarche. La production de chrétiens a pris la place de la direction donnée dans la parole, c'est-à-dire de faire des disciples. La parole nous demande de faire des disciples. Hein? L'ajout de membres est devenu la priorité au point de compromettre l'Évangile et par la croissance extrême, ils sont venus à justifier presque tous les moyens pour arriver à leur but personnel, soit se glorifier dans leurs œuvres. Les paramètres de croissance du monde sont devenus les standards pour l'Église. On a amené des standards du monde dans l'Église avec des pourcentages, tu sais, d'augmentation. Puis des programmes. On paraît comme dans une fois de plus, l'intégrité de l'œuvre de Dieu a été infectée par une fausse stratégie théologique de croissance avec la fausse image de la super-Église. La notion de faire des disciples a cédé sa place pour la production de haut niveau sur laquelle les gens s'auto-évaluent en y plaçant des indices de performance. C'est incroyable. On ne vous donne plus un ministère sur le plein conseil du Saint-Esprit, mais plutôt selon votre curriculum. On va te donner un ministère si mettons, tu as des études. Mais c'est plus sur le conseil du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est plus maître dans son église. Plusieurs chrétiens ensuite achètent leurs livres pour savoir comment faire. C'est vrai. Les gens courent après les livres, acheter des livres de ces gens-là, là, pour savoir comment faire. Hey, imaginez-vous. Jésus nous a donné un exemple avec ses disciples. Hein. Avant d'envoyer ses disciples, il les avait enseignés personnellement pendant 3 ans. Ils étaient toujours ensemble, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils vivaient ensemble. Cela représente notre temps personnel quotidien avec Dieu. Pour faire des disciples, il faut d'abord être un disciple en étant enseigné personnellement dans nos temps quotidiens avec le Seigneur. Amen. J'entends déjà les gens dire, ouais, mais écoute, on n'est plus dans le temps de Jésus, là. Faut évoluer, là, quand même. C'est dommage que ces leaders chrétiens ont quitté la direction des Écritures pour la remplacer par des préceptes d'hommes axés sur des indices de performance industrielle. C'est bien dommage de voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que les adversaires de Judas ont fait quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas infiltrer le peuple d'Israël comme de faux amis? Ils ont été avec le découragement. Hein? La deuxième étape, ils ont adopté la deuxième stratégie. Ils ont essayé de décourager les travailleurs en les harcelant tous les jours et en payant des fonctionnaires perses pour aller faire du harcèlement. Malheureusement, cette stratégie a réussi depuis de nombreuses années. Pour nous qui travaillons dans le Seigneur, nous faisons également face au découragement. Quelquefois, cela vient des gens à l'extérieur du groupe. En Californie, des gens se sont plaints, j'ai pas mis le mot plaint, une très grande faute là, d'avoir des églises dans le voisinage à cause du bruit de la circulation. OK? Ça, c'est les gens du monde, ils ont dit là, ça fait trop de bruit, il y a trop de circulation, ils sont allés se plaindre au conseil d'administration. Le conseil d'administration a passé un règlement, il n'y en a plus d'église. Et puis là, vient le découragement. Ça peut naître une sorte de découragement. Mais un des auteurs nous disait, je trouve particulièrement tragique que la principale source de découragement pour le chrétien aujourd'hui vient de l'intérieur du corps du Christ. Et puis c'est pas surprenant quand on pense à ça, parce que l'ennemi s'en prendra pas à ce qui lui appartient. Le monde lui appartient, ce qui est dans le monde lui appartient. C'est pas là qu'il va frapper. Il va frapper dans le corps. Puis il va utiliser des gens du corps pour qu'on se frappe les uns les autres. Donc, l'ennemi est très actif à l'intérieur de l'Église. Nous voyons des divisions, des conflits, ou toutes les choses horribles qui y sont rattachées, des gens expulsés, brutalisés verbalement, envoyés au tapis. Des gens isolés à cause de leur discernement dans la situation et qui ont osé remettre en question les indices de performance. Des gens qu'on invite à partir. Je pense que tu seras mieux de te trouver une autre église. Et tout ça parce qu'ils ont osé se lever pour Christ. Quand on regarde en arrière de ces concepts humains, on voit des corps de chrétiens morts, jonchés le long de la route, des gens qui ont abandonné la foi. Voilà l'objectif de l'ennemi. Abandonner la foi. L'ennemi, il veut qu'on abandonne la foi. Parce que vous savez que Paul a dit « combattez le bon combat ». Le bon combat, c'est de garder la foi jusqu'à la fin, même si on va voir et on va vivre des choses incroyables. Ensuite, on rentre dans une section où ça s'appelle « démasquer l'opposition ». Esdras a identifié la population du pays comme étant les adversaires de Juda. Tous, ils étaient tous mis au même niveau. Il y avait plusieurs peuples, là. Il y a plusieurs gens. Ils étaient tous mis pareil. Son barème, c'était quoi son barème, Esdras? C'était la direction que Dieu avait donnée. Dieu avait donné une direction. Il avait dit « ceux qui vont revenir de l'exil, c'est vous autres qui allez bâtir, pas d'autres. » Puis, il avait utilisé la bouche de Cyrus pour donner cette direction-là. Hein? Donc, Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Nous avons parlé que l'opposition peut provenir du monde, mais elle provient aussi souvent des membres de l'Église. Mais afin de s'opposer à l'ennemi de manière efficace en tant que chrétien, il nous faut démasquer. Afin de s'opposer à l'ennemi, il nous faut démasquer notre véritable opposition. Nous devons nous rendre compte que les gens qui résistent à l'œuvre de Dieu ne sont que des pions dans le jeu de notre véritable ennemi. Il y a celui qui vient te mettre devant toi. C'est pas lui ton ennemi. L'ennemi est dans le ciel. Hein? Dans Éphésiens, et puis là on va revoir des choses qu'on a déjà vues, mais j'ai été bien béni parce que le Seigneur a amené d'autres provisions, et puis à toutes les fois c'est toujours pareil, et puis merci Seigneur. Dans Éphésiens, Paul décrit la nature réelle de notre position, dans Éphésiens 6, 11, 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Celui qui se présente devant toi, c'est pas lui ton ennemi. Ça, c'est la chair et le sang. Ton ennemi est spirituel. Contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La personne qui est en avant de toi, c'est pas elle ton ennemi. L'ennemi est dans le ciel. La personne qui est en avant de toi est utilisée. C'est un pion. Ça peut être un de nous autres, là. On a cru l'ennemi sur une menterie qui est venue nous compter. Il va nous utiliser. Il va nous utiliser. Être conscient de la source de notre opposition, ça nous offre trois avantages. Tout d'abord, lorsque nous allons affronter des adversaires humains, nous allons les voir comme des pions dans un grand match. On les verra plus comme personnels. On va voir au-dessus de ça. Hein? L'ennemi est au-dessus du pion. C'est pas le pion l'ennemi. Le pion bouge pas tout seul. Il y a quelqu'un qui fait bouger le pion. C'est lui. Nous pouvons être libres face aux gens qui n'aiment pas la direction de l'œuvre de Dieu, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde, nous allons trouver plus facile de les aimer et prier pour eux. Hein? Si on le voit de cette façon-là, on va pouvoir prier pour eux autres, au lieu pour que Dieu leur donne du discernement. Amen. Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur le fait que c'est une guerre spirituelle et qu'il faut combattre avec des armes spirituelles, comme Paul l'écrit aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est très important ici. Vous allez voir, il y a un lien. La première place que l'ennemi va nous attaquer, on va voir ensemble. Revenons à l'armure de Dieu. Hein? On devrait finir pas trop longtemps. Si on regarde le temps, parce qu'on a des choses après. Bon. Revenir à l'armure de Dieu. L'armure de Dieu, on l'a vu dans les versets Éphésiens 6, 14 à 18. Examinons brièvement les armes. Quand il dit « Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. » Voyez-vous ce qu'il vient de dire dans le verset de Corinthiens? « Et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les pensées. Ici, il dit « Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. » Qu'est-ce que ça veut dire, ceindre ses reins, dans la Bible? Qu'est-ce que représentent les reins? C'est le siège de la conscience. Tes pensées. Il dit « Fais attention à tes pensées. » Fais attention parce que l'ennemi, la première place qu'il va venir attaquer, c'est dans ta peur, dans tes pensées. Fais attention à ce que tu médites. Les reins dans la Bible représentent le siège de la conscience. Ici, Paul nous dit de faire attention à ce qu'on médite. Est-ce que c'est la vérité qui siège dans ma conscience? Est-ce que c'est la vérité qui siège dans ma conscience? Voici une autre porte par laquelle l'ennemi va tenter d'entrer en essayant de nous infecter par de fausses projections. Le piège est de croire les projections. Amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est du stock nouveau que je vous donne. On a déjà vu ça, mais c'est nouveau ce qu'on voit. Ensuite, il dit « Revêtez la cuirasse de la justice. » Ici, le Seigneur nous révèle par quel moyen l'ennemi va utiliser pour nous coucher. Il y a un moyen pour vraiment pour te coucher ici, et c'est pour te porter un coup fatal. Pourquoi qu'il dit ça? Parce que la cuirasse, elle protège les parties vitales du corps. Fait que c'est pour ça qu'il a dit ça, c'est la cuirasse. Et si tu n'as pas ta cuirasse, tu vas tomber. C'est sûr que tu vas tomber. Et puis c'est important ici, ce que le Seigneur est en train de nous révéler. La cuirasse, ça protège les parties vitales, le cœur, le poumon, le foie. Il peut atteindre ces parties en essayant de porter atteinte à notre justification par toutes sortes d'accusations. C'est pour ça qu'il dit « Revêtez la cuirasse de la justice ». La cuirasse de la justice, c'est de souvenir en tout temps que nous avons été justifiés devant Dieu par le sang de Christ. Nous avons été lavés dans le sang de Christ, revêtus de notre vêtement blanc, sans tache, à cause de l'agneau livré pour nous. Amen. Mettez, après ça, l'autre point, c'est mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. OK. L'image que Paul nous donne ici, puis le Seigneur, quelle image me donnait, c'était vraiment, j'ai eu vraiment du bon temps à préparer ça. J'étais tout seul hier, mais j'étais pas tout seul. Et puis, les chaussures qui sont très importantes pour notre marche. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Regardez par quoi il a commencé. Il a dit, surveille ce qui est dans ta tête. Ensuite, il dit, fais attention à tes parties vitales. Ensuite, il dit, mets quelque chose dans tes pieds. Pour ta marche. Pour de la marche chrétienne. Hein? Il dit, les chaussures sont très importantes pour notre marche. Sans chaussures, on peut pas marcher à bien des endroits. Comme dans le gravier. As-tu déjà essayé de marcher mes pieds dans le garnement? Ah, ça a mal, hein? Ça marche pas bien. Donc, on doit être ceux qui marchent en tout temps en cherchant la paix. Il dit, cherche toujours la paix. Peu importe dans ce que tu travailles. Il dit, cherche l'évangile de la paix. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ne pas mettre la paix en priorité dans notre marche chrétienne, c'est marcher pieds nus dans le gravier. Nous risquons d'avoir de la difficulté. Matthieu 5, 9, Jésus-Christ qui parle. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le prochain est non le moindre. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le bouclier, là, regardez bien ce qu'il dit. C'est par-dessus tout cela, un point important ici, l'image du bouclier ici représente bien que nous sommes sous le feu de l'ennemi. Il vient de le dire, là. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, par lequel vous éteignez tous les traits enflammés. Il dit, t'es sous le feu, là. Là, il tire sur toi, tout le temps. Donc, il dit, baisse pas ton bouclier. Faut que ton bouclier, c'est quoi le bouclier? C'est la foi. La parole. Mais surtout la foi dans ce que le Seigneur a dit que tu étais. Puis les promesses que le Seigneur t'a faites. C'est ça qui va te faire que ton bouclier, ben, sera pas. T'as beau tirer, mon homme. Moi, je suis ce que mon père pense de moi. Tu sais? Hein? Donc, il tire constamment. L'ennemi, il tire constamment. Mais, oublions pas qu'il tire avec du monde autour de nous autres. Ça tire avec du monde autour de nous autres. Comment l'ennemi va-t-il réussir à nous atteindre? Seulement si on baisse notre bouclier. Ou bien si le bouclier que j'utilise n'est pas adéquat. Le bouclier original, il était en bois, il était recouvert de cuir. Pour pas qu'il prenne en feu. quand il tirait des flèches, il tirait des flèches, puis le feu était allumé après la flèche. Fait que quand il recevait la flèche, le cuir brûlait pas. La flèche prenait dans la chose. Fait qu'il faut que le bouclier soit adéquat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ta foi, est-ce qu'elle est à la bonne place? Ta foi, es-tu dans un bâtiment? Ou est avec Dieu? Amen? Donc, croire que l'ennemi, nous avons toujours le choix de croire l'ennemi ou bien de croire par la foi ce que la parole dit de nous, nous rappeler notre position. Romains 8, 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Hein, Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Notre foi est révélée par ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. En qui je crois vraiment? Ou en quoi je crois vraiment? Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut. Qu'est-ce que ça veut dire, le casque du salut? L'image du casque représente la puissance de Dieu que j'ai revêtue en mon salut. Il nous rappelle la protection divine sur nos vies, l'assurance de la délivrance de nos corps de mort pour la vie éternelle. Mon casque, là, s'il y a beau fesser, moi, je vais vivre éternellement. Sauvé. Je peux frapper quand tu voudras. Ça ne me dérange pas. Je suis sauvé. Tu comprends? J'ai le salut, moi. Le casque, je suis sauvé. C'est ça. C'est le casque du salut. Puis j'ai l'assurance que je vais être délivré de ce corps de mort. Puis je vais avoir la vie éternelle, puis je vais vivre éternellement dans la présence de mon Dieu. Donc, frappe tant que tu voudras. Il nous rappelle que nous avons été pardonnés pour nos péchés antérieurs et ceux qui sont à venir. Donc, il ne m'a pas juste pardonné pour tous mes péchés que j'ai faits avant, il m'a aussi pardonné pour ceux que je vais faire et que je vais le confesser. Fait que fesse tant que tu voudras. Mais ce casque, c'est mon assurance. Donc, tu peux recevoir tous les coups imaginables. Il n'y a rien qui va changer ça. Amen? Cette image-là est la dernière, mais non la moindre. L'épée de l'esprit. Oh, ici, quel enseignement incroyable. Oui, c'est la parole, mais regardez, c'est qui l'annonce la parole. C'est l'épée de qui? De l'esprit. Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est écrit l'épée de la chair? Non. Ce que nous cherchons, c'est les fruits de l'Esprit, ce qui réfère à la parole de Dieu. Donc, vous savez, on étudie ça. Hein? Marcher selon l'Esprit, ça veut dire que quand ça va t'arriver, il faut que ce qui va en venir en premier, ça va être naturel. Donc, tu ne dois pas répondre à ça. Puis là, tu dois te connecter en haut et tu dis, Seigneur, donne-moi l'Esprit. Puis là, c'est l'Esprit qui va te donner la parole. Comprenez-vous? Non, c'est pas nous, c'est l'épée de l'Esprit. Nous autres, par notre chair, on l'a vu, on n'est pas capable. Mais l'esprit qui vit en nous, elle, on peut tout avec cet esprit-là. Et on a vu ça, hein, dans 1 Corinthiens 2, 15, versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. N'est-ce pas ce que nous recherchons dans toutes les situations? Avoir la pensée de Christ pour être des ambassadeurs de Christ dans toutes les situations. Amen. Troisièmement, on doit se souvenir que Christ a vaincu l'ennemi à la croix. Et par cette victoire, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il n'a plus de pouvoir sur nous, le diable. Et là, je vais vous dire une parole qu'il faut que vous reteniez. L'ennemi a le pouvoir sur vous que celui que vous lui donnez. Il est écrit quelque part. Mais là, je vous le dis parce qu'il me vient à l'esprit là. L'ennemi a le pouvoir sur vos vies que vous lui donnez. Par vos réactions, par les façons que vous réagissez quand il vous envoie des choses. Amen? C'est important. Il nous a donné la victoire par sa mort sur la croix et nous sommes seulement dans une période de transition. Nous autres, là, on est ici juste pour un temps, on est dans des temps. Notre vie... Et dans le ciel avec le Seigneur. On est ici temporairement. Le temps que l'enfantement des enfants de Dieu soit terminé, hein? On a vu ça. Donc, je sais plus où je suis rendu. Puis après vient le règne de Christ. Amen. Tu règneras avec le Seigneur sur la terre. Donc, Romains 16, 20a, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Donc, quand on rencontre des moments difficiles, quand on est sous attaque, parce que cette semaine, on est sous attaque, notre groupe est sous attaque, parce que j'ai été averti de ça aussi. Et puis, j'ai remercié le Seigneur parce que j'ai vraiment pu, moi, me bercer là-dedans, là, vraiment, puis de voir ce que le Seigneur faisait avec ça. Mais pourquoi il permet ça, le Seigneur? Pour nous enseigner. Pour nous enseigner comment réagir à ça, ces attaques-là. Donc, on peut tout, quand on rencontre ces moments-là, on doit se souvenir que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Donc, si la guerre n'est pas dans la chair et le sang, mais elle est spirituelle, nous ne pouvons pas lutter seuls, nous avons besoin de Dieu, par son Saint-Esprit. Nous découvrons ici une nouvelle façon de vivre la fidélité de Dieu et de sa puissance pour écraser l'ennemi sous nos pieds. L'ennemi a le pouvoir qu'on lui donne. Seigneur, apprends-nous à revêtir ton armure et à se battre avec tes armes contre l'ennemi pour que la gloire de Jésus-Christ soit révélée à travers nos vies. Amen. On a fini. Donc, on va faire juste une petite prière rapide pour dire merci Seigneur de cet enseignement incroyable. Merci Seigneur pour ta fidélité. Puis merci pour les gens qui sont ici ce matin. Et puis merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions qui se renouvellent à chaque matin. Et puis, je vais quand même, si on est pressé, on va quand même prendre le temps de faire un appel, ce qui est le plus important. Et puis, Seigneur, on te demande de faire ça dans nos vies avant de faire l'appel. On te demande vraiment d'être des guerriers célestes, des gens qui puissent revêtir ta puissance, Seigneur. Pas notre puissance, pas par notre puissance, notre puissance charnelle qui détruit, mais ta puissance spirituelle qui bâtit, Seigneur, qui guérit, puis qui restaure tout autour d'elle. On te demande cette armure, Seigneur, qu'on puisse la mettre, qu'on puisse vraiment marcher avec cette armure que tu nous as laissée, puis de faire ça dans nos vies, on te demande puissamment, Seigneur. Et puis, si tu as entendu ce message et tu veux être un guerrier céleste, c'est toi aussi. La Bible dit qu'aujourd'hui même, tu peux recevoir ce cadeau-là. Que tu ne peux rien faire. La Bible dit aussi que tu ne peux rien faire par toi-même pour être sauvé. C'est impossible à l'homme d'être sauvé, mais c'est possible à Dieu. Et puis, la Bible dit aussi qu'il y a une condamnation qui pèse sur nous. Et puis que nous sommes tous pécheurs et condamnés à mort, mais que Dieu a pourvu une solution. Il a envoyé son Fils sur la croix mourir pour nous. Et puis, la Bible dit que si tu crois et que tu le reçois dans ton cœur, aujourd'hui même, tu peux devenir un enfant de Dieu. Donc, dans Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est une histoire d'amour, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Et puis, dans Jean 1,12, ça dit à celui qui l'a cru et qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que Dieu veut te faire un cadeau, mais Dieu, c'est un gentleman. Dieu veut te faire un cadeau, mais si tu veux pas l'accepter, il va repartir avec son cadeau. Tu comprends? C'est comme toi, si tu vas faire un cadeau à un ami, mais il dit, j'en veux pas, je ne peux pas le faire. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin d'un sauveur, et que tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, et que tu le crois vraiment sincèrement dans ton cœur, aujourd'hui même, tu deviendras un guerrier céleste. Et puis, si tu veux, on va te conduire dans une prière. Et puis, tu n'as qu'à prier avec nous dans ton cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux prier pour les gens qui auraient pu faire cette prière à distance, que tu touches leur cœur maintenant puissamment de ton amour, pour qu'ils puissent avoir la certitude qu'ils ont la vie éternelle. Seigneur, envoie-leur des ouvriers, qu'ils deviennent tes disciples et qu'ils deviennent le sel et la lumière pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup.